Ville BM. Politique.
La loi sur le cannabis qui entre en vigueur aujourd'hui remplace un système qui ne fonctionnait pas. Nous sommes prêts pour notre travail, mais notre travail ne s'arrête pas ici.
C'est une promesse électorale. M. Trudeau a échoué avec la réforme électorale, donc il devait avoir une autre promesse qu'il devait réaliser. Puis ce qu'il a fait, il a dit, là, la légalisation, c'est une de mes promesses. On n'a pas le choix, coûte que coûte, il faut que ça soit prêt, il faut que ça soit légal avant les élections de 2019. Sinon, je vais avoir de leur fou, j'aurais rien réalisé.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Voilà, Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Et Carl Bélanger, consultant en communication, stratège politique. Bonjour Carl.
Bonjour.
Carl, faut que tu me rappelles à la fin du bloc, faut que tu me fasses ton call de canard parce que t'arrives de la chasse au canard.
Ben oui.
Tu y échapperas pas, mon ami. D'ailleurs, c'est toi qui va d'abord commencer, qui va lancer le bal parce que oui, c'est légal, mais il reste encore beaucoup de choses à régler.
Notamment sur la question des pardons pour les condamnations passées et également sur toute la question de la frontière avec les États-Unis. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui veulent entrer aux États-Unis, qui consomment du cannabis? Et les deux ministres du gouvernement, là, Ralph Goodale de la Sécurité publique et Bill Blair qui s'occupe de la frontière, on en a discuté ce matin. On peut les écouter.
We will make sure that they know what the facts are on the Canadian side of the border.
And when they go to the border, the U.S. officials also have the ability to take into account the fact that a pardon, if they do happen to have an old record, that a pardon has been granted in that regard.
Ouais, est-ce que les Américains vont, pour reprendre ces mots, tenir en compte le pardon qui a été obtenu quand tu vas traverser les douanes? Les douanes, c'est loin d'être sûr.
Ben il y a même un exemple présentement où un soldat canadien qui a participé à des opérations en Afghanistan avec des Américains qui a tenté d'obtenir une carte verte pour habiter aux États-Unis et travailler aux États-Unis, qui a été pardonné pour des crimes reliés au cannabis. Ils ont découvert ça aux États-Unis pendant qu'il était là, puis il a été arrêté, puis il a passé 45 jours en prison. Donc, la réalité, c'est que aux États-Unis, là, c'est pas le Canada. Alors les auditeurs qui nous écoutent, qui obtiendront un pardon ou qui consomment du cannabis légalement, il y a rien qui vous garantit que les États-Unis vont accepter ça. Et certainement, je vous conseille de ne pas en amener avec vous pour traverser la frontière.
D'ailleurs, il arrive quoi si un douanier, mettons, te fouille ton auto puis il trouve du pot?
Ouais.
Est-ce qu'il t'arrête ou est-ce qu'il... Parce que tu veux... Il te retourne de bord, j'imagine?
Ben,
il laisse pas rentrer?
Ça va dépendre des circonstances puis de la quantité, là, parce que on pourrait aller jusqu'à importation illégale de substances illicites aux États-Unis.
Et ça
c'est,
oui.
C'est un crime assez grave aux États-Unis. Mmh. Là, on est toujours dans la guerre à la drogue aux États-Unis présentement.
Bien sûr. OK. Tu viens de nous... Les frontières?
C'est ça on parlait. Okay. Pour le pardon, les anciennes condamnations, Ralph Goodale se dit aujourd'hui qu'il allait accélérer le processus, les pardons allaient arriver rapidement, que la période d'attente de 5 à 10 ans allait être... on va l'éliminer et que le coût aussi qui est associé à ça va être éliminé. Donc, c'est une assez bonne nouvelle pour les anciens qui ont été condamnés là-dessus.
Mais ça, on le croira quand on le verra. Mais
ça va prendre un certain temps,
parce qu'il va falloir engager du monde pour s'occuper de tous ces dossiers-là. Paul Journet, tu souhaitais nous faire prendre un petit peu de recul sur la question du cannabis, sur la prohibition du cannabis, c'est bien ça? Tu nous ramènes en arrière?
Oui, ben j'aimerais ça qu'on trippe ensemble au naturel, Bernard, avec l'histoire, qu'on utilise l'histoire pour planer au-dessus un peu de l'activité quotidienne, pour prendre du recul. Parce que quand on s'intéresse à l'historique du cannabis, là, ben on constate que la prohibition, ça va avoir été l'anomalie. Un peu de la même façon qu'aujourd'hui, quand on regarde la prohibition de l'alcool, ça aurait été la parenthèse, l'anomalie dans l'histoire. Parce que le cannabis à prohibition, en fait, ça a été la victime collatérale d'une offensive puritaine et xénophobe contre les opioïdes. Si on remonte au début du 20e siècle, tu vas comprendre pas mal de choses sur la prohibition du cannabis. Donc, au début du 20e siècle, il existait ce qu'on appelait, entre guillemets, le problème chinois. C'est comme ça que c'était présenté. On voulait s'attaquer à l'immigration chinoise en criminalisant l'opium. Et c'est comme ça que sont apparues les premières lois prohibitionnistes. La première loi sur l'opium était en 1908 et on parlait très peu du cannabis à l'époque. Ça s'est ajouté seulement en 1923 en s'inspirant de ce qui se passait aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on parlait de cannabis, ben c'était une façon de criminaliser en quelque sorte les Mexicains et les Noirs. D'ailleurs, marijuana, ça vient de l'utilisation que faisaient les Mexicains du cannabis. Donc, le cannabis est criminalisé un peu par la bande pour toutes sortes de mauvaises raisons, même s'il n'y a pas grand monde qui en fumait, ni après sa criminalisation, ni avant, dans les années 20, 30, 40, 50, ça restait assez marginal la consommation. Ça a commencé l'explosion de fumeurs de cannabis au milieu des années 60. Mmh. Écoute, entre 62 et 68, le nombre de condamnations aux criminels a explosé de 11 000%. Donc, c'est vraiment à partir des années 60 que les gens consomment et tout de suite, immédiatement, le gouvernement du Canada regarde ça et ils se disent « Ben, ça n'a pas de bon sens. Il y a des jeunes qui ont un dossier criminel, leur avenir est handicapé simplement parce qu'ils ont consommé une substance illégale. » Donc, tout de suite, ils s'en remettent à des experts. Ils commandent un rapport et ça va devenir la commission Ledain. Donc, en 72, peu après le début de la consommation à grande échelle, déjà, les experts nous disent que la prohibition, ça ne fonctionne pas. La commission Ledain propose de permettre la possession et la consommation. Donc, tu vois, ce n'est pas une lubie à M. Trudeau. Ce n'est pas une nouvelle idée. Déjà en 72, les experts le permettaient. Et il y avait une des commissaires, Marie-Andrée Bertrand, une éminente criminologue québécoise, qui, elle, proposait d'aller encore plus loin que ses collègues de la commission Ledain. Puis elle voulait carrément proposer un réseau de distribution puis de vente du cannabis puis décriminaliser les autres drogues. Donc, rapidement, on en était venu à cette conclusion-là au
Canada.
Là,
on est en quelle année, là?
Là, on est en 72. Okay. Tout de suite, en 74, tout de suite après, il y a un projet de loi qui est déposé au Sénat. Donc, tu vois, ça n'a pas pris une décennie avant que le cannabis entre dans les mœurs pour que tout de suite, on constate un problème de la criminalisation. Mais il y a un immense recul parce qu'on a commencé à s'inspirer de ce qui se faisait au sud de la frontière, c'est-à-dire l'espèce de « war on drugs » du président Nixon, une vaste campagne de répression.
Reprise par Reagan,
renforcée par des conventions internationales. Puis le Canada a été aspiré là-dedans, même si ça ne fonctionnait pas. Puis à nouveau, il a continué à avoir des rapports d'experts qui disaient « attention, c'est la prohibition, c'est un échec. » On l'a oublié un peu, mais en 2002, il y avait le sénateur Nolin dans son rapport qui voulait avancer vers la légalisation.
La décriminalisation, pour avancer à terme
vers la légalisation. En 2003, il y avait une dissidence de trois juges québécois de la Cour suprême qui, eux aussi, constataient que ça ne fonctionnait pas. Et on en est venu, donc ça, c'est la réflexion au Canada.
En terminant.
Puis ailleurs, dans le monde, d'autres personnes en sont venues à cette conclusion-là jusqu'à la spectaculaire volte-face de la commission de l'ONU sur les politiques de lutte à la drogue en 2011, où ils ont dit « La lutte à la drogue, ça ne fonctionne pas, c'est un échec, ça tue des innocents, ça emprisonne des malades, ça gaspille des milliards de dollars. » Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a un mouvement vers la légalisation. Ça existe aux États-Unis avec d'autres États et aussi au Canada. Donc, ma conclusion, la prohibition, peut-être que ça aurait été la parenthèse et l'anomalie. Et ça fait certainement pas, depuis l'élection de M. Trudeau qu'on en parle, ça fait un petit peu plus longtemps que ça.
Oui, mais c'est lui qui a décidé d'en faire un choix politique.
Bien sûr, oui.
Et d'en faire une proposition.
Je sais tout à fait, mais c'est sur la table depuis le début des années 70. Là.
OK. On va arrêter et au retour, on va parler du serment à Sa Majesté la Reine que les députés de Québec solidaire vont prononcer cet après-midi. Il y en a qui aimeraient bien ça mettre fin à ça. De retour avec Carl et puis Paul. Paul, donc, les députés du Bloc qui vont prêter serment à Sa Majesté la Reine. Ils n'ont pas le choix, mon ami. C'est la Constitution canadienne qui l'oblige. Sinon, ils ne pourront pas occuper leur banquette au Salon Bleu. Tu peux pas siéger comme député si tu ne portes pas allégeance
à Sa Majesté.
Et voilà.
Ben oui, hein? Parce que la reine, c'est une personne qui est vraiment correcte, Bernard. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit quelque chose contre elle?
Elle est géniale, la reine. On l'aime tellement. Hein?
Non, mais je pense que tout le monde trouve ça... En tout cas, j'ose espérer que la majorité des députés trouvent ça un peu...
anachronique.
Voire ridicule. Anachronique, c'est un beau mot poli pour dire des choses qu'on pense qui sont moins polies par rapport à la pertinence de prêter serment à la reine. Québec solidaire, oui, en effet, comme tu le mentionnes, ils n'ont pas vraiment le choix. Par contre, ils ont ajouté, du moins lors de la dernière élection, Gabriel Nadeau-Dubois avait ajouté un petit préambule dans lequel il rappelait son engagement pour l'indépendance du Québec, en partenariat avec les peuples autochtones, etc. Mais donc, ce que Québec solidaire propose aujourd'hui, c'est d'opérer des changements pour que, lors de la prochaine élection, les nouveaux députés assermentés n'aient plus besoin de prêter serment à Sa Majesté la Reine. Il y a quelque chose que j'ai appris. Apparemment, dans certains pays du Commonwealth, comme l'Australie, on aurait aussi, selon Sol Zanetti, biffé cette mention.
À mon avis, Paul, là, tu vérifieras ça, là, mais tu ne peux pas changer le serment, si tu ne changes pas la Constitution canadienne, et comme ça concerne la royauté, j'ai l'impression que ça prendrait l'assentiment des 10 provinces et du gouvernement fédéral.
Et il y a, aussi étrange que ça puisse paraître à certains Québécois, il y a des gens dans le Canada anglais qui sont attachés à la monarchie.
Voilà.
Ça existe, ouais, mais c'est, des gens comme ça.
C'est, oui, ça existe. Et d'ailleurs, c'est, enfin, à mon sens, là, on parle de quelque chose qui est un peu symbolique, hein, le serment à la reine, mais il y a un débat à avoir pour se débarrasser de cet anachronisme qu'est la monarchie. Je veux dire, sérieusement, là, on est en 2018, puis on est encore tous des loyaux sujets de Sa Majesté.
Je suis d'accord avec toi, là, puis un paquet de monde là, qui... Mais tu sais bien que ça n'arrivera pas. Là. Le monde de la Saskatchewan, là, il capote bien raide quand il voit y arriver un lointain prince de sa famille.
Mais c'est moins que c'était. Hein. La famille royale attire moins les foules qu'avant.
Pour changer la Constitution canadienne, là, pour enlever la monarchie, ça prend l'unanimité des 10 provinces et un vote du Parlement fédéral. Ça n'arrivera pas.
Il
n'y
a personne qui veut lancer le débat. Il n'y a aucun des partis politiques qui prône ça. Peut-être que Maxime pourrait prendre la balle au bon puis aller de l'avant avec ça, parce que je pense qu'il y a un fond républicain qui grandit au Canada.
Eh, bâtard, hein?
Le club vient de doubler son membership. Ils sont passés de 1 à 2.
Alors, tu nous parles de Maxime. Parle-nous donc du dernier sondage.
Écoute, il y a un sondage Forum qui vient de sortir ce matin. C'est un sondage qui dit que les conservateurs, s'il y avait une élection aujourd'hui, seraient majoritaires.
Je crois pas Forum. Moi.
Écoute, moi non plus, habituellement, je crois pas Forum, mais c'est le deuxième sondage Forum consécutif qui dit ça.
Oui, mais le Nanos d'hier disait que les libéraux sont à 37 et les conservateurs sont à 31.
C'est ça.
Et que Maxime fait 1,1%.
Ouais, ça m'a étonné parce que c'est contraire aux chiffres qu'on avait vus avant que Maxime lance son parti. Il faut croire que les gens n'aiment pas le nom et que le parti n'est pas si populaire que ça. Mais la réalité, c'est que... ce que je veux dire, c'est qu'on est à un an des élections et ceux qui pensent que c'est dans la poche pour Justin Trudeau, ben il y a des sondages qui disent présentement le contraire. Il y a aussi la maison Campaign Research qui a mis les conservateurs devant avec une bonne avance. Donc, tout est possible et le décompte commence maintenant.
Bon, il nous reste une minute. Et tu vas maintenant...
Je pense qu'il reste plus de temps, en fait.
...nous faire ton corps de canard. Parce que là, Carl arrive de la chasse au canard, justement dans mon coin de pays, le lac Saint-Pierre.
Ben oui, dans ce coin-là.
Ça a-tu bien été?
Ça a très bien été. Ce matin, on s'est levé de bonheur.
Ton quota?
Le quota, moi et mes compagnons, là, on a tous tiré notre quota.
Un quota, c'est 6 canards.
6 par jour, c'est ça.
Est-ce que tu as calé le canard?
Écoute, je me suis amusé un peu à le faire, mais je pense qu'il était simplement attiré par ma présence. Okay. Moi, je suis comme un aimant à canard.
Ben écoute, j'aimerais ça juger moi-même de la qualité de ton corps de canard pour voir si c'est pour ça qu'ils ont-tu cassé dans ta mare? Ils sont-tu arrivés puis ils ont descendu dans ta mare?
Il y en a eu quelques-uns. Oui. Évidemment, les sarcelles, hein, les plus petites qui passent en flèche, ça, c'est plus compliqué, mais il y a quelques malards là, qui sont descendus, qui se sont posés devant nous.
Et ton corps de canard maintenant? Ah, collé!
Non, mais écoute.
Il est grippé!
Mais oui, mais c'est ça le truc! S'ils sont malades, les canards, ils viennent voir ce qui se passe!
David Guetta ajoute un beat et on a un hit, Carl.
Il a fumé du pot de ton canard, il est gelé!
Ça les attire, ils veulent voir que le canard est correct. Je te dis, ça marche!
Merci, Carl, merci, Paul.
Salut!